Alors, j'ai une petite histoire pour commencer. En 1650, il y a un érudit très sérieux qui a pris sa plume. Il a fait de longs, très longs calculs mathématiques en s'appuyant sur des textes anciens.
Ouais, je vois très bien de qui tu parles.
Et il a déclaré, super solennellement, que le monde avait été créé très exactement en l'an 4004 avant Jésus-Christ.
C'est tellement précis, c'est dingue quand on y pense.
Bah oui, complètement. Et cette date, elle n'est pas juste restée dans les tiroirs d'un bureau poussiéreux, hein. Elle a carrément fini par être imprimée dans les marges de bibles officielles au siècle suivant.
Ce qui montre à quel point les gens y croyaient dur comme fer.
C'est ça. L'idée qu'on puisse dater la naissance de l'univers avec une telle précision chirurgicale, juste à partir de généalogie antique, ça semble fascinant aujourd'hui, voire totalement absurde.
Absolument. Mais en fait, cette démarche, elle révèle un choc frontal monumental.
Un choc entre deux mondes, oui.
Exactement. C'est le choc entre la façon dont les anciens écrivaient leur histoire, spécifiquement dans l'Ancien Testament, et nos propres attentes à nous, nos attentes modernes, occidentales, qui sont, disons-le, complètement obsédées par la chronologie et les données exactes.
Bon, décortiquons tout ça. Pour cette session d'analyse approfondie aujourd'hui, on va se baser sur un document vraiment remarquable.
Ah oui, une source très riche.
Ce sont les notes de la conférence 3 sur l'histoire de l'Ancien Testament, données par le professeur Robert Van Hoy. C'est un texte qui se concentre sur la période primitive, les fameuses généalogies, et bien sûr cette question épineuse de la chronologie.
Et c'est un sujet qui remet beaucoup de choses en perspective.
Tout à fait. La mission de ce décryptage, c'est vraiment de déconstruire nos idées reçues sur la précision historique. On va essayer de comprendre pourquoi forcer une lecture chronologique moderne sur des textes antiques, c'est une erreur fondamentale.
C'est même un contresens total.
Et le but, c'est d'extraire la véritable intention derrière ces écrits millénaires. Alors pour poser les bases, comment on en est arrivé là ?
Eh bien, pour bien comprendre ce problème de lecture, il faut d'abord regarder comment le monde moderne a essayé de se rassurer face à ces textes.
De se rassurer, c'est-à-dire ?
Avant même de plonger dans les histoires de lignées ou les calculs de dates, la fin du 19e siècle a été marquée par une vague de scepticisme massif. Le professeur Van Hoy souligne l'influence de figures comme Julius Wallhausen, par exemple.
Ah oui, Wallhausen, une grande figure de la critique textuelle.
Voilà. Il a incarné un courant critique très très fort. En gros, l'approche dominante à l'époque, c'était de remettre en question la validité historique de tout l'Ancien Testament.
Carrément. Et sur quoi ils se basaient pour dire ça?
Leur argumentaire s'appuyait sur une logique qui, pour eux, semblait imparable. Ils affirmaient avec une certitude absolue que l'écriture n'existait tout simplement pas à l'époque supposée de Moïse.
Attends, donc s'il n'y a pas d'écriture...
Eh bien, il est matériellement impossible que ces textes fondateurs aient été rédigés à la période décrite.
La prémisse est forte, hein. Je veux dire, si personne ne sait tenir un stylet ou graver une tablette, tout le récit s'effondre. Ça se transforme direct en mythe inventé des siècles plus tard.
Exactement. Sauf que cette certitude académique du 19e siècle, elle a fini par se heurter à la réalité du terrain.
La fameuse archéologie qui vient jouer les troubles faites.
C'est ça. Les fouilles archéologiques qui ont suivi ont mis au jour des éléments irréfutables. Elles ont prouvé que les Égyptiens maîtrisaient l'écriture dès 2700 avant Jésus-Christ.
Ah ouais, donc bien avant Moïse.
Largement avant. Ça repousse l'existence de cultures sophistiquées et de systèmes d'écriture très loin dans le passé. Le postulat de base du scepticisme de l'époque a donc été, disons, littéralement pulvérisé par l'appel des archéologues.
C'est fou, mais du coup, l'archéologie vient sauver le texte.
Elle a effectivement sauvé la crédibilité du contexte historique, oui. Cependant, et c'est là que les notes de Van Hoy introduisent une nuance cruciale, une nuance qu'on ignore très souvent.
Laquelle ?
L'archéologie, elle, fournit des corroborations de nature générale. Elle valide l'existence de civilisations, elle confirme des pratiques culturelles ou la présence de certaines villes. Mais elle ne fournit quasiment jamais de confirmation spécifique. Tu vois, on ne trouve pas de stèle ou de tablette qui corrobore au mot près un dialogue ou un événement très ponctuel décrit dans les Écritures.
Ah, je vois. Il y a un gouffre entre prouver que l'Écriture existait en Égypte et prouver le déroulement exact d'un récit biblique précis.
Tout à fait. C'est une distinction fondamentale.
En fait, c'est un peu comme si on utilisait un bulletin météorologique historique pour prouver la véracité d'un traité philosophique.
Oh, c'est une excellente comparaison, ça.
Bah oui, tu vois, savoir qu'il pleuvait bien à Athènes le jour où Socrate a débattu, ça donne du crédit au décor, super. Mais ça ne valide en rien la teneur du débat lui-même.
Exactement. Le fond reste invérifiable par la météo.
Et le truc, c'est que si on s'appuie uniquement sur l'archéologie pour approuver un texte religieux, on crée une vulnérabilité immense. C'est comme construire une maison sur du sable mouvant.
C'est très risqué intellectuellement.
Ben oui, qu'est-ce qui arrive si une nouvelle fouille, genre l'année prochaine, met au jour un artefact qui semble contredire un détail du texte?
Tout l'édifice s'écroule.
Exactement, parce qu'il reposait sur une preuve matérielle qui fluctue au gré des découvertes.
Et le danger de cette dépendance? C'est précisément ce que souligne le professeur Van Wy en citant la pensée du théologien Machen. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont Machen aborde le problème.
Que dit-il exactement?
Son analyse met en garde contre l'abandon de la rationalité au profit d'une foi aveugle ou d'un subjectivisme pur.
Le subjectivisme, c'est-à-dire se baser juste sur ce qu'on ressent.
Voilà. Dans ce contexte, c'est l'idée dangereuse de baser sa croyance uniquement sur une expérience personnelle intérieure, de façon totalement indépendante de la réalité historique ou textuelle.
Donc on déconnecte la croyance de l'histoire.
C'est ça. Marchen soutenait que la source écrite elle-même doit rester le fond d'oulant, et cela par le biais d'un processus de pensée rationnelle et d'une analyse rigoureuse du texte.
Ça fait sens.
Si on rejette ce fondement rationnel pour ne se fier qu'à ce qu'on ressent ou à la dernière trouvaille archéologique, il n'y a plus de vérité de base commune. Toute discussion devient impossible.
Parce que n'importe quelle expérience subjective se met à valoir n'importe quelle autre.
Exactement.
Donc l'archéologie a ses limites, elle dresse le décor, mais elle ne règle pas du tout le problème de la chronologie absolue. Et puisque la terre, les fouilles, refusaient de livrer des calendriers précis, les historiens et les théologiens se sont retournés vers les textes eux-mêmes pour y chercher des dates.
Et c'est là que le drame commence.
Ah ça, c'est clair. C'est ici que notre obsession occidentale moderne entre en collision frontale avec la littérature antique, parce que notre historiographie exige une chronologie continue.
C'est vital pour nous.
Pour un esprit moderne, une histoire sans frise chronologique n'est même pas considérée comme sérieuse. Sauf que, comme le fait remarquer Van Hoy, l'Ancien Testament ne partage absolument pas cette priorité.
Pas du tout, c'est le cadet de leurs soucis.
L'apparition d'Abraham dans le chapitre 12 de la Genèse, c'est l'illustration parfaite de ça. Il entre dans le récit de manière complètement abrupte, sans date de naissance, sans contexte chronologique global pour le situer par rapport aux empires d'à côté.
Et le lecteur moderne, face à ça, se retrouve complètement désemparé. Il y a un vide chronologique qui le dérange.
Et au lieu d'accepter ça, on a forcé le texte.
Voilà. Plutôt que d'accepter que le texte poursuive un autre but, l'approche traditionnelle a consisté à forcer ce texte à répondre à nos propres questions de moderne. Et ça nous ramène à la fameuse méthode de notre archevêque Usher en 1650.
Le monsieur de l'an 4004.
Lui-même. Il a pris les généalogies des chapitres 5 et 11 de la Genèse, qui listent les âges des patriarches à la naissance de leurs descendants, et il les a traités comme une simple équation mathématique continue.
Il a juste fait des additions, quoi.
Exactement. En additionnant scrupuleusement ces chiffres, il a imposé un calendrier absolu à une littérature qui n'avait mais alors jamais été pensée pour cet usage.
L'impact de cette erreur de catégorie a été gigantesque. La date de 4400 avant Jésus-Christ, elle a conditionné la lecture de millions de personnes.
Pendant des siècles, oui.
Il a vraiment fallu attendre la fin du 19e et le début du 20e siècle pour que cette méthode soit sérieusement remise en cause de l'intérieur même du monde théologique. Le document qu'on étudie met en lumière les travaux de William Henry Green en 1890 et de B.B. Warsfield en 1911.
Deux grands professeurs au séminaire de Princeton.
Tout à fait. Et leurs conclusions ont eu l'effet d'un véritable séisme intellectuel. Ils ont démontré noir sur blanc que l'idée d'une création récente de l'humanité n'a en fait aucune base scripturaire réelle.
Zéro.
Le texte biblique est, sur le plan théologique, totalement indifférent à l'âge de l'humanité.
Et l'implication de leur thèse, elle va bien au-delà d'une simple correction de date. Ce que Green et Warfield ont révélé, c'est que le prétendu conflit acharné entre la science et la Bible, c'était un conflit entièrement factice.
Un faux problème depuis le début.
Exactement. À l'époque, la science commençait à prouver l'ancienneté vertigineuse de la Terre, et on pensait que ça contredisait la Bible. Mais la bataille n'opposait pas les découvertes géologiques aux textes anciens.
Et l'opposait qui alors ?
Elle opposait la science moderne à une très mauvaise méthode d'interprétation humaine, initiée par des lecteurs comme Usher.
Ah, je comprends. En exigeant du texte ancien qu'il se comporte comme une encyclopédie scientifique, on a créé un paradoxe artificiel de toute pièce.
C'est tout à fait ça.
Mais attends, c'est là que ça devient vraiment intéressant ? Parce que la démarche de Green et Warfield, elle pose un problème fascinant. Si ces textes ne visent pas à établir une chronologie, s'il se moque royalement de savoir si l'homme est là depuis 6000 ou 60 000 ans.
Oui.
Hein? Alors pourquoi s'encombrer de toutes ces listes de noms à non plus finir? Je veux dire, à quoi ça sert ces longues énumérations qui rythment les textes, si on n'est pas censé les additionner?
Ah! La clé réside dans la traduction culturelle. Plus précisément, la traduction des concepts mêmes de filiation et d'engendrement. La source propose un décodage indispensable de ce langage généalogique antique.
Il faut redéfinir les mots qu'on lit?
Absolument. Dans notre mentalité occidentale moderne, les mots comme « fille » s'engendrer ou « enfanter », ils décrivent exclusivement un lien biologique direct et immédiat.
Genre de père en fils sans sauter d'étape.
Voilà. Une génération suit l'autre sans exception. Mais dans le monde sémitique antique, ces mots possèdent une élasticité sémantique que nous, on a complètement perdue.
C'est-à-dire ?
Eh bien, « fils » signifie très souvent « descendant de », au sens large. Et « engendrer » se traduit plutôt par « devenir l'ancêtre de ». La notion de proximité immédiate n'est absolument pas induite par le vocabulaire.
D'accord. Les preuves textuelles rapportées par Van Hoy rendent cette élasticité indéniable. L'exemple le plus célèbre, et que beaucoup connaissent sans y penser, c'est l'ouverture même du Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu.
Ah oui, le tout premier verset.
Ça commence par « Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Bon, il est évident pour tout lecteur de l'époque qu'il y a des dizaines de générations sautées entre David et Jésus.
Et autant entre Abraham et David, oui.
Personne à l'époque ne considérait cette phrase comme une erreur factuelle. C'est un raccourci littéraire admis pour établir une lignée de légitimité. Et l'Ancien Testament regorge d'exemples qui prouvent cette compression délibérée.
Tout à fait. Tu as un autre exemple en tête?
Oui, dans Genèse 46, le texte affirme que Zilpa a, je cite, « enfanté 16 fils à Jacob ». Pourtant, la liste nominative juste avant ce résumé inclut très clairement des petits-fils et des arrière-petits-fils. Le mot « enfanté » englobe ici la totalité de la descendance.
Sans se soucier des strates générationnelles, c'est fascinant. Et on a un autre cas très parlant dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 26. On y mentionne un certain Shebuel, qui est décrit textuellement comme le fils de Gershom, fils de Moïse.
Attends, il me semble qu'il y a un énorme trou temporel là, non?
Oh que oui! Historiquement, il y a une séparation d'environ 400 ans entre l'époque de Moïse et de Gershom et l'époque de ce fameux Shebuel.
4 siècles!
Oui. Qualifié Shebuel de fils d'un homme décédé 4 siècles plus tôt, ça démontre vraiment à quel point la continuité de la lignée, surtout sacerdotale, prime sur la biologie immédiate.
C'est le sens qui compte, pas la génétique directe.
Le professeur Van Hoy souligne d'ailleurs cette flexibilité en comparant deux listes généalogiques qui sont censées décrire exactement la même lignée. L'une dans Chroniques chapitre 6 et l'autre dans le livre d'Esdras chapitre 7.
Et il y a des différences ?
La liste d'Esdras omet délibérément 6 noms qui sont présents dans l'autre registre. Juste comme ça.
Omettre 6 générations entières, ça ferait hurler n'importe quel généalogiste aujourd'hui. Mais pour l'auteur antique, tant que le point de départ et le point d'arrivée étaient connectés par les ancêtres les plus significatifs pour son récit, bah le travail historique était parfaitement accompli.
Exactement. Le message passé.
Et si on doute encore de l'omniprésence de ce phénomène de saut générationnel, le professeur Van Hoy rapporte une démonstration logique, mathématique, tirée du livre des nombres. C'est un truc qui clôture définitivement le débat pour moi.
Ah oui, l'histoire des Lévites.
C'est ça. Le texte dénombre 22 000 hommes au sein de la tribu des Lévites à l'époque de Moïse.
Or, si on s'en tient à la lecture stricte et continue de la généalogie fournie juste avant, il n'y aurait eu que 4 générations entre Lévi, le fondateur, et Moïse.
4 générations ? Pour arriver à 22 000 hommes.
Le calcul est simple. Même en imaginant un taux de natalité exceptionnellement élevé, passer d'un seul homme à 22 000 individus de sexe masculin, en âge d'être compté, et tout ça en l'espace de seulement 4 générations, c'est absurde.
Ça défie toutes les lois fondamentales de la démographie humaine. Totalement. C'est une multiplication humainement impossible.
Et c'est justement cette impossibilité qui est éclairante. La multiplication exponentielle requise rend la lecture littérale impossible. La conclusion logique, imposée par le texte lui-même, c'est que de très nombreuses générations s'intercalent dans le silence du récit entre Lévi et Moïse.
C'est la seule explication logique.
Et si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est ce qui a conduit le professeur Warfield à formuler sa fameuse règle d'or concernant les généalogies.
Et que dit cette règle ?
Il stipule que l'objectif exclusif de ces listes est de montrer l'existence d'une ligne de descendance, rien de plus. Warfield insiste sur le fait qu'une généalogie composée de 10 maillons enregistrés peut en réalité représenter 100, 1000 ou même 10 000 générations réelles.
Donc, l'abrégement des listes, c'est normal.
Oui. La compression du temps par l'omission d'ancêtres jugés secondaires pour le propos, ce n'est absolument pas un défaut du texte. C'est sa nature fondamentale. C'est en totale harmonie avec l'intention littéraire des auteurs.
Bon, le mystère des généalogies tronquées semble résolu. Mais les notes de Vaninoy abordent un dernier obstacle. Et franchement, c'est de loin le plus contre-intuitif de tous.
Je t'écoute.
Si la norme, c'est de sauter des milliers d'années entre deux noms, pourquoi l'auteur de la Genèse, au chapitre 11 par exemple, se donne-t-il la peine vertigineuse de fournir les âges exacts des patriarches au moment où ils engendrent leurs successeurs ?
C'est le paradoxe apparent, oui.
Bah oui. Le texte nous dit que Sem a 100 ans lorsqu'il engendre Arpakshad et qu'il vit encore 500 ans par la suite. L'association d'un âge précis à la naissance d'un descendant, ça crée une illusion redoutable de continuité absolue. C'est exactement le piège parfait dans lequel l'archevêque Usher est tombé.
Et on le comprend, parce que l'utilisation de ces nombres précis semble contredire tout ce qu'on vient d'établir sur l'élasticité du mot « engendrer ».
Complètement. Comment on résout ça ?
L'explication apportée par les travaux de Green et Warfield nécessite un renversement total de notre façon de lire ces données. Ils avancent l'idée que ces chiffres ne sont pas les rouages d'un calendrier continu.
C'est quoi alors ?
Il fonctionne comme un conspectus.
Un conspectus, il faut s'arrêter sur ce concept de conspectus, car ça change vraiment la donne. C'est quoi au juste ?
Un conspectus, c'est un aperçu global, une vue d'ensemble. C'est conçu pour transmettre une idée spécifique plutôt qu'une série de données isolées ou une ligne du temps.
D'accord. Mais quel est le but de cette vue d'ensemble chiffrée, du coup ?
L'intention littéraire et théologique derrière ces nombres imposants, c'est de brosser le portrait de l'humanité primitive, particulièrement avant et juste après le déluge. Le texte utilise ces âges pour souligner la grandeur originelle de la vie humaine.
Pour montrer que c'était différent avant.
Voilà. Ça montre son potentiel extraordinaire au commencement et ça trace le lent déclin de cette espérance de vie au fil des airs. Les nombres servent de marqueur d'une dégradation de la vitalité humaine face au temps.
Et pour l'âge à la naissance du fils ?
Eh bien, la logique de l'abrégement généalogique s'y applique également, et de manière fascinante. Lorsque le texte déclare que Sem a 100 ans quand il engendre Arpakshad, cela ne signifie absolument pas qu'Arpakshad est né lorsque Sem soufflait sa 100e bougie.
Ah ouais, la mécanique derrière ça demande une vraie gymnastique mentale.
C'est vrai, il faut s'accrocher un peu.
Si engendrer signifie devenir l'ancêtre d'eux, ça implique que l'enfant né lorsque Sem avait 100 ans n'était pas Arpakshad lui-même, c'était un enfant anonyme.
Exactement.
Et c'est cet enfant anonyme qui a initié la lignée génétique spécifique aboutissant, peut-être des centaines d'années plus tard, à la naissance du fameux Arpakshad. L'âge de 100 ans fige le point de départ de la branche, il ne date pas la naissance du descendant final.
Tu as tout compris. L'auteur antique crée un pont direct entre l'ancêtre, à l'instant où la lignée bifurque, et le descendant illustre qui en est issu, tout en ignorant délibérément les siècles qui les séparent. Sem aurait très bien pu être mort depuis des siècles quand Arpakshad est né.
C'est brillant. Ça réconcilie complètement l'utilisation de nombres précis avec la certitude qu'on a sauté des générations entières.
Le texte est cohérent avec lui-même, oui.
Il suit ses propres règles, qui privilégient le sens plutôt que le minutage. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pourquoi quiconque écoute cette analyse aujourd'hui devrait s'en soucier ? Qu'on prépare une réunion ou qu'on soit juste curieux ? Pourquoi c'est important ?
La réponse, c'est que c'est une leçon magistrale de pensée critique, surtout face à la surcharge d'informations qu'on gère aujourd'hui. Cela nous apprend l'importance cruciale de lire un document en fonction de l'intention de son auteur et non de nos propres attentes.
Le fossé méthodologique entre eux et nous est abyssal. Plaquer nos exigences contemporaines sur de tels documents, c'est fondamentalement comme reprocher à un poème d'amour de ne pas être formulé comme un tableau Excel.
C'est une très bonne image.
On exige du texte antique qu'il fournisse des données comptables continues, alors que sa seule intention était de transmettre des liens d'appartenance, d'identité et de vocation. Refuser de lire un document selon ses propres conventions conduit invariablement à son rejet intellectuel.
Un rejet basé, comme le craignait Manchen, sur de très mauvaises raisons. L'exactitude, au sens antique du terme, ne passe pas par la rigueur du chronomètre. Une lignée criblée de trous chronologiques racontait une histoire bien plus exacte, selon leurs critères, qu'une froide liste de dates.
L'ironie de l'histoire, c'est que notre soif de précision factuelle nous a rendus pendant des siècles complètement aveugles aux messages réels que ces auteurs essayaient de transmettre. L'exactitude n'est pas toujours synonyme de chronologie. L'histoire n'est pas qu'une question de date, c'est surtout une question d'intention.
Et tu sais, cela soulève une question cruciale, une réflexion vertigineuse quant à notre propre époque.
Ah bon ? Laquelle ?
Eh bien, si des civilisations entières dans le passé ont consciemment privilégié le sens et l'identité symbolique d'une lignée, plutôt que la précision absolue d'un calendrier,
oui.
Quelles sont les métriques, les données statistiques ou factuelles de notre propre monde moderne, ces données que nous archivons avec une rigidité quasi religieuse aujourd'hui, qui risquent d'être complètement mal interprétées par les historiens du futur ?
Oh, c'est une excellente question, ça.
Tout simplement parce qu'ils ne saisiront pas dans 1000 ou 2000 ans nos propres conventions culturelles actuelles et qui chercheront une vérité littérale là où nous mettions du sens.
C'est une réflexion fascinante pour clore cette analyse. Appliquer cette même grille de lecture critique, non seulement au passé, mais à l'empreinte que nous laissons aujourd'hui, ça remet vraiment en perspective la solidité de nos propres certitudes méthodologiques.
Ça invite à l'humilité.
Complètement. L'étude de ces textes nous rappelle que pour comprendre le fond d'une pensée, il faut d'abord accepter de désapprendre notre propre façon de lire. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des sources qui façonnent notre compréhension du monde.